Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021, c'est une belle journée dans le Beaujolais, le soleil brille, les nuages se font rares et les températures se situent autour de 22 degrés. En revanche, ce week-end ça se gâte un peu avec des risques d'orage samedi après-midi et un dimanche qui s'annonce plutôt pluvieux. Au programme de l'émission, on a rendez-vous bien sûr avec nos chroniqueurs du vendredi, on retrouve donc le prof Patrick pour un cours de sciences économiques et sociales et avant c'est un peu notre prof de musicologie, c'est Pitch, notre disquaire caladois qu'on retrouve en fin d'émission avec son choix musical hebdomadaire. Mais d'abord, la première partie de l'émission est consacrée à l'invité du jour. Aujourd'hui c'est une émission qui risque de vous donner soif. Nous recevons Léa pour nous parler de la brasserie Valdaz, brasserie installée à Lamure-sur-Azergue au quartier Métisseur, qui produit une bière militante. Alors en quoi est-elle militante? On va le demander à Léa, bien sûr. On va peut-être pas lui demander tous ses secrets de fabrication, parce que ça se fait pas. Mais on peut quand même s'intéresser un peu à ses recettes plutôt originales, avec des prunelles sauvages, du pain, de la roquette, et j'en oublie sûrement des plus surprenants encore. On va parler brasserie aujourd'hui, donc bière, donc je me dois de le dire au moins une fois avant de commencer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors n'en abusez pas. Maintenant que vous savez le programme, il est temps de commencer l'émission et on le fait en musique bien sûr. Voici M qui reprend Georges Brassens avec Les Copains d'abord. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Les copains d'abord.
rock, la reprise de Georges Brassens par M. C'était Les Copains d'abord et c'est pour la BO du film, du prochain film, Le Petit Nicolas.
Ensemble sur Calade.
Allez, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Et aujourd'hui avec nous en studio, c'est Léa. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Eh bien, c'est avec grand plaisir et c'est pour nous parler d'une brasserie locale, la brasserie Valdaz. Pour la présenter en quelques mots, avant de prendre le temps d'en parler un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que la brasserie Valdaz ?
Alors, la brasserie Valdaz, elle a été mise en place il y a à peu près 2 ans. Donc, au sein du quartier Métisseur, qui se situe à Lamure-sur-Azergue, une association à but premier culturel, avec une programmation annuelle. Et la brasserie, elle est située dans un des bâtiments du quartier Métisseur.
Très bien. À la base, l'origine du projet La Brasserie, si on veut en parler, on est obligé de parler du quartier Métisseur et de ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, on l'appelle comme ça, en effet. La brasserie, moi, je suis dans un cadre de salariat. C'est-à-dire que la brasserie, elle est totalement intégrée au quartier Métisseur. Et contrairement à d'autres artisans qui sont sur place et qui louent leur espace de travail, l'idée avec la brasserie, c'est de générer des revenus et ensuite de pouvoir payer la programmation annuelle avec les revenus de la brasserie.
Parce qu'il y a des événements culturels réguliers avec des artistes qui sont invités, des propositions de spectacles, etc. Et donc, la brasserie est dite, c'est une bière militante qui est produite. Et pourquoi, du coup, elle est militante, cette bière ?
Donc, militante, déjà, parce que ce que je vous disais, c'est... L'idée, c'est d'être indépendant au niveau des financements qui sont malheureusement pour la culture, qui sont souvent des financements de fonctionnement, qui sont très lourds. Nous, on avait envie d'être indépendant et de pouvoir choisir la programmation et d'être libre dans la programmation qu'on proposait aux gens. Et ensuite, elle est également militante parce que c'est une bière qui est faite avec des ingrédients locaux. Donc nous, on travaille avec une malterie qui est dans la Drôme, qui malte des céréales de la région seulement. On travaille aussi avec des houblons bio, mais qui sont... on va travailler avec la... Il y a une houblonnière qui s'est montée. Donc le houblon bio, c'est encore un peu compliqué en France, mais il y en a de plus en plus.
C'est rare, ça se fait pas trop.
Il y a énormément de demandes et il y a très peu d'offres. Donc, d'accord. Le temps que ça se mette en place, et en fait, du moment où tu plantes les houblons, ça prend quelques années avant que ça...
Avant de pouvoir le
récolter. Voilà. Donc, nous, on est sur une liste d'attente. Mais sinon, c'est des houblons européens. Donc déjà, c'est ce qui est déjà pas mal parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de brasseries qui se fournissent très, très loin pour avoir des houblons qui font des côtés plus exotiques, sur les fruits très exotiques.
Et vous avez dit maltais aussi. Au tout début, je ne sais plus ce qu'il fallait malter.
Les céréales pour être utilisées dans de la bière.
C'est un mot qu'on voit souvent sur les alcools en général. Et je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, maltais. Ça veut dire quoi ?
Donc en fait, le grain, le processus du maltage, c'est qu'en fait le grain est cru, va passer à travers plusieurs étapes, pour avoir une germination, il va être humidifié, ensuite il va avoir une germination, après on va sécher le grain, et pour avoir des bières plus ou moins claires, on va après le torréfier, donc le sécher plus ou moins fort, et après même le torréfier pour avoir des grains très noirs.
D'accord.
Qui vont donner des bières comme la Porter, qui sont des bières brunes ou des bières noires. Et cette étape permet à l'assimilation des enzymes pour que les enzymes assimilent le sucre et puissent être transformées en alcool.
Et pour que ça puisse faire de l'alcool derrière.
C'est ça.
Donc
c'est un passage obligatoire, pour faire de la bière.
On était en train de parler je vous ai coupé pour comprendre ce mot, mais on était en train de parler des fournisseurs du coup et d'où est-ce que viennent les produits. Il y a un intérêt local pour à la brasserie Valdaz, vous cherchez des trucs, des produits locaux.
Tout à fait. On a parlé des deux ingrédients principaux qui sont le grain, le houblon. Après, nous, ce qu'on utilise aussi, c'est beaucoup pour faire des bières de saison, on utilise des fruits. Des fleurs, des aromates. Et en fait, c'est c'est important pour nous d'aussi participer, de faire de la cueillette, par exemple, parce qu'on est en milieu rural et on est entouré de plein de choses qui nous permettent de faire des bières originales.
Et donc, vous allez faire de la cueillette sauvage, entre guillemets, pour aller
chercher la prunelle, par exemple, c'est la cueillette sauvage.
Et ça vient d'où l'idée à la base, comment est-ce qu'on se dit je vais aller cueillir en l'occurrence des prunelles pour les mettre dans la bière? C'est une expérience, c'est totalement une expérience où on se dit on va essayer, on va voir ce que ça donne, ou il y a une logique, il y a une base de...
Oui, en effet, la prunelle, je l'ai fait une fois, donc c'était un essai. On a aussi des petites cuves, des petits donc qui permettent de faire des petits brassins et de pas non plus s'engager dans des milliers de litres, et donc ce qui permet de faire plein de choses différentes. Et en fait, l'idée c'est juste de nous, on se promène dans la nature et on voit plein de choses qui sont possibles et qui peuvent être utilisées dans la bière. Et en fait, l'idée d'utiliser des fruits, souvent c'est parce qu'il y a également les levures qui sont vivantes et qui sont partout sur le fruit.
Ouais.
Et en fait, en utilisant les fruits frais et en mettant en début de fermentation, on n'a pas besoin d'utiliser de levure chimique.
D'accord.
Donc, ça fait encore plus une bière naturelle. Et voilà. Donc, c'est vrai, contrairement à beaucoup de bières qui vont souvent se ressembler, parce qu'ils ont, au final, ils utilisent tous les mêmes levures créées en laboratoire. Et ben nous, on a la chance, avec la nature, nous donne tellement de possibilités.
Et comment le processus de brassage, j'imagine que c'est quelque chose de complexe et qu'on n'aura pas forcément le temps de l'expliquer, mais est-ce qu'on peut prendre n'importe quel ingrédient et essayer de l'incorporer dans une bière? C'est simple à faire ou chaque ingrédient, il faut essayer de trouver une autre technique?
Ouais, non, il faut quand même savoir doser, il faut savoir quand le mettre. Est-ce qu'on met à la fin d'ébullition? Est-ce qu'on met en début d'ébullition? Est-ce qu'on veut avoir plus un côté fruit frais? Donc on va le mettre plutôt en début de fermentation, à la fin de fermentation. Il y a vraiment, c'est ce qui est très intéressant aussi avec le milieu de la bière, c'est qu'il y a des possibilités infinies pour faire des recettes infinies. Donc il y a moyen de jamais s'ennuyer.
Il y a un vrai laboratoire où vous faites des expériences, ça fait partie de votre boulot au quotidien d'essayer des nouvelles choses.
Oui, tout à fait. Après, nous, on n'est pas... on travaille tout le temps avec des fruits frais, donc on n'inocule pas avec des levures dans des Erlen Meyer. Mais l'idée, c'est aussi de développer un petit labo et de pouvoir comprendre un peu plus aussi tout ce milieu des micro-organismes qui nous entourent.
Vous nous avez dit que la brasserie a ouvert il y a 2 ans dans le cadre du projet du quartier métisseur pour atteindre une autonomie économique. Ça demande des investissements, ça demande du matériel. Comment ça a fonctionné au début? Comment est-ce que ça a démarré?
Nous, on a investi dans du matériel de seconde main, qui a coûté très peu cher. On essaie de faire de la récupération, comme tout bon brasseur qui n'a pas beaucoup de sous à investir au début. Après, on a quand même rénové entièrement le bâtiment de la brasserie, parce qu'il y avait toute la toiture à refaire, toute l'isolation. Il y avait quand même... C'est une ancienne usine, le quartier Mitzor, donc il y avait quand même beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Donc voilà, et depuis un an et demi... parce que pendant 6 mois, il y a eu un petit temps où on brassait sur du 100 litres et on faisait des toutes petites quantités parce que c'était pas fini, quoi. Les travaux, c'était pas fini.
Et aujourd'hui, la production, vous en êtes à combien pour comparer
Aujourd'hui, on travaille sur des cuves donc de 500 litres.
Ouais.
Donc c'est 5 fois plus gros. Ça reste quand même une toute petite production. Donc pour ceux qui connaissent, on a un prévisionnel de 120 hectos. Donc,
d'accord.
De 12 000 litres par année.
D'accord.
Donc, ça reste vraiment...
ça reste une petite entreprise.
Voilà.
La bière, une fois produite, il faut la distribuer. Je crois que l'idée, à la base, c'est de la distribuer uniquement sur le quartier métisseur et de la vendre que sur place, c'est ça?
Au début, c'est vrai qu'en tant qu'association, l'idée c'était aussi de partager avec d'autres associations qui étaient proches de l'AMUR, de pouvoir fournir toutes les assos du coin avec la bière du quartier. Malheureusement, comme on sait tous, avec l'année qu'on a eue, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés. Nous, au quartier, on n'a pas pu faire de programmation. Donc, on s'est retourné un petit peu vers le marché plus classique, mais en fait, la bière, maintenant, elle est proposée surtout chez les cavistes, un petit peu dans les épiceries. Et donc, c'est vrai que c'est une bière aussi, des bières qui sont particulières. On fait quand même une gamme plus classique, mais ouais. La plupart des bières qu'on fait, c'est vrai que c'est bien aussi d'être averti et de comprendre un peu ce qu'on va boire et d'être accompagné.
De connaître l'histoire de la bière.
Oui, voilà.
Vous avez quand même, du coup, j'imagine, une bière blonde à peu près classique.
Oui, c'est ça. C'est vrai que en tant qu'endroit d'accueil, il faut quand même aussi pouvoir plaire à tout le monde et faire une bière un peu plus classique. Donc, c'est quand même notre souhait aussi de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Donc,
c'est vrai qu'on a une idée, on a évoqué la prunelle. Y a quoi d'autre comme ingrédient un peu surprenant que vous avez pu mettre dedans ?
Comme vous disiez, j'en ai fait beaucoup avec... Donc l'hiver, on a beaucoup d'agrumes, donc en direct des producteurs en Sicile. Donc c'est des agrumes bio, non traités, parce que sinon on ne peut pas les utiliser, il n'y a plus de levure. Et du coup, il y a beaucoup de bières qui ont été faites, comme la citron roquette par exemple. On a fait une bière de clémentine. Il y a des bières, là en ce moment avec les vendanges, je fais de la bière de vin, donc c'est un hybride avec 30% de vin. Ouais. Donc là, pareil, c'est le vin qui est en début de fermentation. Donc c'est pas tout à fait du vin, c'est un peu du jus sucré.
C'est le Bardi, c'est ça?
Ouais. Et du coup, on utilise le vin pour inoculer et pour faire fermenter la bière.
D'accord.
Donc ça, c'est la bière.
Médine Beaujolais.
C'est ça. On a la chance d'avoir plein de vignerons et des super produits. Donc, on travaille avec des vignerons du sud Beaujolais qui font du vin nature. Et donc, on a du super vin et on peut travailler même avec le marc de raisin. Je fais de la bière au marc de raisin.
Et dans des fûts aussi, j'ai cru voir ça.
Tout à fait, ouais. On a récupéré un fût de Gamay. Sinon, on a des fûts. Là, en ce moment, on a un fût de Rhum. Puis un fût de Mont-Basilic aussi. Mais on n'en fait pas énormément encore. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, surtout sur des bières vivantes comme ça, de voir la bière évoluer. Hier, justement, je goûtais, avant de refaire la bière au vin, je goûtais celle de l'année dernière. Et c'est vraiment étonnant à quel point ça évolue en un an.
En un an, le goût qui change.
Tout à fait.
Le quartier Métisseur, c'est un lieu vivant. C'est quoi les prochains événements, les prochaines occasions de venir découvrir le quartier Métisseur et puis la Val d'Aze par la même occasion?
Oui, en effet, on a donc récemment ouvert le café-bar associatif L'Engrenage. Donc c'est super chouette parce que c'est sur le bord de la Zergue, une grande terrasse, donc c'est très tranquille, très calme, et on a envie de proposer quand même des activités à chaque ouverture.
Ouais.
Et donc d'ailleurs, ça sera ouvert, on est ouvert ce soir de 17 à 21h. Et les samedis également, le matin, donc 9 à 13 et 17 à 22. Et on est ouvert également le lundi, parce qu'on propose un marché de producteurs le lundi. Et ce lundi, il y aura donc soirée cocktail bruschetta, parce qu'on a des amis, donc barman, qui travaillent avec les alcools de Florent, qui distille aussi sur le lieu, donc qui a la distillerie de l'eau des vivants. Et donc eux, ils vont venir nous proposer des cocktails avec les alcools de Florent. Donc eux, ils viennent de Belgique en plus de Spa. Ils ont une super bar, donc je pense que ça va être...
Vous allez pouvoir parler bières également, j'imagine, avec des Belges.
Tout à fait, ouais.
Très bien. Et merci beaucoup, Léa, de nous avoir présenté la brasserie Val d'Aze. On peut en entendre un peu plus parler aussi avec le site internet du quartier Métisseur.
Tout à fait, Facebook, site internet.
Et puis la page Facebook, oui, j'allais oublier.
Instagram, maintenant aussi, on s'est modernisé. on essaie, mais...
Voilà. Faut qu'on s'y mette, nous aussi.
Merci beaucoup.
Très bonne journée.
Bonne journée à vous.
Ensemble sur Calade.
Tiens, il faut que je le dise encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avant de continuer, dans quelques instants, on va retrouver le prof Patrick. On terminera l'émission aussi avec notre disquaire Pitch. Pour l'instant, on écoute un peu de musique. Philippe Catherine avec Bof Generation.
Bonjour. chez nous, c'est à l'infini. Il est Mimi le petit, on dirait son papy.
Ah, il est décédé. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Fou comme une paire de Ray-Ban à la fin de l'hiver.
Vous deviendrez fou.
Fou comme le cheval qui perd son écuyère.
Vous deviendrez fou.
Fou comme des gens qui s'entassent dans des bagnoles.
Vous deviendrez fou.
Au milieu d'autres gens dans des bagnoles.
Vous deviendrez fou.
C'est des zinzins qui nous gouvernent, on le sait depuis les cavernes. Si c'était moi à l'Élysée, je demanderais qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière? Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière.
Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime nos poisons, nos prisons.
Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime des chansons sans passion.
Nous c'était la bof génération,
bof génération.
On s'en foutait d'avoir raison.
On voulait juste être là, sans savoir pourquoi.
Je suis pas contre l'idée d'avoir tort. Je me suis pas demandé mon avis.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou.
Vous deviendrez fou.
Je veux bien t'effleurer.
Tu veux bien m'effleurer?
Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on écoute du Philippe Catherine sur Calais? Parce que c'est sympa. C'était donc Bof Génération et c'était avec Dominique A. Philippe Catherine. Il est temps de parler économie maintenant.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, avec nous en studio, c'est le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, prof
Patrick? Je coche mes petites cases des bonnes résolutions de la rentrée. Donc j'avais promis que j'allais parler de l'inflation. C'est parti, on parle de l'inflation. Grande question, est-ce qu'elle est de retour ou pas? On y va?
On y va, allons-y.
C'est parti, mon gars. L'inflation, pour les néophytes, c'est l'augmentation des prix, hein, d'accord? Alors, résumé des épisodes précédents, pour les auditeurs de Calade qui n'auraient pas écouté toutes les chroniques de prof Patrick la saison dernière, ce qui serait absolument scandaleux.
C'est vrai.
Nous avons fait, le 4 novembre 2020, une chronique pour expliquer en détail ce qu'était l'inflation. Donc, les auditeurs qui veulent le détail de la mécanique peuvent aller dans le podcast. Ils vont sur radio-calade.fr, émissions, magazines et divertissements et chronique prof Patrick. On était aussi revenu à la fin de la saison dernière, mais alors je ne sais plus quand, sur cette question, avec les plans de relance massifs qui ont été mis en place par les pays occidentaux depuis 18 mois, est-ce qu'on ne risque pas de voir la demande augmenter fortement, ce qui, en théorie, doit générer une augmentation des prix? Face à cette interrogation métaphysique, les deux camps habituels se sont reformés et se sont maillochés, comme d'habitude, dans les grands débats économiques. D'un côté, les économistes du courant dominant, les orthodoxes, qui sont tous plus ou moins liés au courant de pensée néoclassique qu'on appelle les économistes libéraux. Alors, eux ont annoncé que l'inflation allait redémarrer fort et que ça risquait de mettre en danger notre système économique. De l'autre côté, en face, les économistes hétérodoxes, tous plus ou moins liés au courant de pensée keynésien, qui plutôt ont postulé que l'inflation ne devrait pas augmenter très fortement, qu'elle resterait en tout état de cause sous contrôle, et que de toute façon, un peu d'inflation, ça fait beaucoup de bien à notre système économique. Alors on a posé le paysage en quelque sorte. Tu vas voir, on va évacuer la réponse, on va y répondre, hein, d'accord, assez rapidement. Et après, on va se concentrer sur ce qui me paraît un peu plus intéressant, c'est-à-dire ce qui, pour chaque camp, se cache comme choix politique derrière les positions opposées autour de l'inflation. Alors d'abord, une précision. J'apporte une réponse à l'instant T, c'est-à-dire mi-septembre 2021, à cette question, l'inflation est-elle de retour ou pas? Cette réponse peut très bien varier du tout au tout au fil des semaines. Ouais. D'accord, ce n'est en rien une réponse définitive, c'est un rapport d'étape en quelque sorte. Alors, à ton avis, Mathieu, elle redémarre ou pas cette inflation?
Oui, bah, je pense que oui, non?
Ouais.
Alors là, c'est vraiment du
pif.
Au hasard. Hein,
elle redémarre un peu, un chouïa, un poil, un pochettino.
Très bien.
Quelques chiffres. À fin août, on constate une augmentation des prix de 3% sur un an dans la zone euro. Alors, vu que l'objectif de la BCE, si tu te souviens, est de 2%, on est bien, et ça pour la première fois depuis 10 ans, au-dessus de l'objectif. De 1%, on est 1% au-dessus. C'est un peu plus net aux États-Unis. Aux États-Unis, à fin juin, on est à plus 5% d'augmentation de prix sur un an. Alors pourquoi un peu plus aux États-Unis? Tout simplement parce que les plans de relance y sont bien plus ambitieux, ce qui engendre une reprise économique bien plus vigoureuse. Un certain nombre d'éléments expliquent ce rebond de l'inflation. Je vais quand même expliquer un peu du pourquoi face à ce petit redémarrage. Je mettrai en lien les deux articles d'où je tire mes analyses dans le podcast. Du côté de l'offre, on a l'augmentation des prix du pétrole et l'augmentation des prix de l'énergie en général. En Allemagne, on a par exemple l'augmentation de la TVA qui a boosté l'inflation. En France, l'été dernier, l'été 2020, on a eu des soldes qui s'étaient décalés et qui donc, le redémarrage après à des prix normaux, rentre dans l'inflation. Et puis on a aussi tout un tas de pénuries de divers composants. Tu te souviens, on avait fait une chronique sur les semi-conducteurs, la pénurie des semi-conducteurs, c'est-à-dire, pour parler clair, les puces électroniques. Eh bien ça joue aussi, bien sûr, ces pénuries, ça augmente les prix. Du côté de la demande, bon, on a le fait que les ménages recommencent à consommer plus fortement et que certains d'entre eux, des ménages, avaient accumulé une sorte de bas de laine qu'ils n'avaient pas trop dépensé durant les périodes d'enfermement du Covid. Et ça joue aussi. Mais quand même, comme l'objecteront tous les économistes sérieux, on ne peut vraiment parler d'inflation que quand on observe des enchaînements de second tour. Et là, je t'ai coincé. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Des enchaînements de second tour.
Tour, ouais, c'est du langage d'économiste. C'est tout simplement que quand ces hausses des prix engendrent en réaction des augmentations de salaire, d'accord? Oui. Suite aux exigences des salariés qui disent « Oh, les prix ont augmenté, il faut nous augmenter nos salaires ». Bref, c'est une question de négociation entre salariés et direction des entreprises. Si c'est le cas, là, on rentre dans une vraie spirale inflationniste qui s'auto-entretient. Et là, on est vraiment dans l'inflation proprement dit. Bon, de ce côté-là, pas de danger. On est loin de là. Pourquoi? Parce que simplement, les salariés, pour la plupart, n'ont pas de moyens de négocier, ne sont pas en position de force dans les négociations avec leurs employeurs. Donc à ce jour, la plupart des économistes qui se sont penchés sur la question de l'inflation estiment que cette situation va revenir à la normale courant 2022.
D'accord.
C'est-à-dire la petite augmentation qu'on connaît va se tasser. Alors derrière cette question, il ne faut pas croire que ce soit anodin, hein, l'histoire de l'inflation. Il y a des enjeux lourds. Par exemple, si l'inflation se faisait durablement menaçante, si elle se renforçait durablement, eh bien, elle obligerait les grandes banques centrales, notamment la Fed américaine et la BCE européenne, à augmenter leur taux d'intérêt directeur afin de ralentir le rythme de la croissance économique. Et ça ferait quoi? Devine quoi? Ça ralentirait le rythme de la croissance économique, ce qui est normal.
Ouais.
Mais c'est ennuyeux quand on sort d'une crise du Covid. Ouais, si on se tape un deuxième ralentissement économique, c'est pas jojo. D'accord? Donc ce serait pas bien. Mais deuxième effet qui se coule, plus gênant encore, si les banques centrales augmentaient leur taux d'intérêt directeur, ça augmenterait très rapidement le coût de l'endettement public des États. Or, on sait que des pays comme les États-Unis et la France sont des pays très endettés, et là, si les taux d'intérêt directeurs augmentent, que ça alourdit le coût des remboursements, des paiements des intérêts, ça pourrait être très très problématique. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qui se dessine. Donc on a répondu à cette question, Mathieu, alors si tu le veux bien, on va en venir comme promis au choix politique qui se cache derrière les positions des deux camps. On avait donc d'un côté les libéraux qui criaient haut et fort que l'inflation allait revenir, et qui derrière crie haut et fort également qu'il est prioritaire de diminuer l'endettement public, qui serait menacé par un retour de l'inflation et une augmentation des taux directeurs. Pour cela, il faut, selon les libéraux, en revenir à ces bonnes vieilles politiques de rigueur, comme celles qui ont été imposées par l'Union européenne entre 2011 et 2015. Derrière cette vertueuse volonté, il y a le choix politique central chez les libéraux de réduire le niveau d'intervention de l'État dans l'économie.
Ouais.
La pensée libérale, c'est d'abord laisser les marchés fonctionner librement, mmh. et l'État doit intervenir le moins possible.
Ça se régule tout seul.
Exactement, c'est la pensée libérale. Le seul problème, c'est que depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, tous les pays développés ont fortement augmenté les interventions des États dans l'économie. Et ça horripile les libéraux. Donc il y a toujours cette idée derrière, en toile de fond. Cette condition, réduire le périmètre d'intervention de l'État dans l'économie, est, selon les libéraux, indispensable pour retrouver de la compétitivité. Parce que l'intervention de l'État, ça se paye par des taxes et des impôts. Et la compétitivité est la clé de la survie dans une économie mondialisée, qui est, on le sait, fondée sur la concurrence généralisée et même la concurrence des États les uns contre les autres. Donc voilà un peu la pensée des libéraux. Le gouvernement Macron est dans cette catégorie, on ne se le cachera pas.
Ouais.
De l'autre côté, du côté des hétérodoxes, des keynésiens, ils vont faire remarquer qu'un peu d'inflation durable, c'est un très bon moyen pour réduire l'endettement public, mais dans la durée, en douceur, au fil des années. Et ils vont aussi ajouter qu'il faut profiter des taux d'intérêt qui sont pour l'instant encore proches de zéro pour investir massivement afin de transformer notre système économique. Et par exemple, investir dans la transition écologique, histoire de ne pas foncer dans le mur du réchauffement climatique.
Ce serait pas mal ça.
Voilà, mais aussi il y a d'autres choses. On peut investir massivement dans la recherche publique qui a été sinistrée depuis 25 ans par les différents gouvernements qui se sont succédés. On peut investir dans l'enseignement supérieur qui est quand même largement délaissé depuis 30 ans. Et aussi investir pour réduire les inégalités. Bref, derrière ces choix-là d'investissement, on a la vision keynésienne qui consiste à dire, au contraire des libéraux, que l'économie ne se régule pas naturellement et qu'il faut l'intervention d'État pour réguler l'économie et affronter les grands thèmes sociétaux et économiques, comme par exemple le réchauffement climatique, etc. etc. Voilà un petit peu, mon cher Mathieu et chers auditeurs de Radio-Canada, derrière l'inflation, vous avez les termes de l'aspect le plus fondamental du débat économique que vous retrouverez à la prochaine présidentielle. D'accord ? On retrouvera ça, hein, d'accord ? Alors, ça ne sera pas le seul débat économique, mais là, avec ça, vous avez le socle sur lequel repose la vision du monde de chacun des deux principaux camps dans les domaines économiques.
Ouais.
J'en ai fini, Mathieu.
Très bien, merci beaucoup, prof Patrick.
On se prépare aux élections, hein, tu vois, on va commencer petit à petit à aborder cette perspective.
Ce serait bien que ce soit des sujets qui aient une place importante dans les débats des élections.
Alors après, les sujets choisis par les médias ne sont pas toujours identiques. Hein,
en général, c'est ceux qui font plus réagir sur
les sentiments. Voilà, l'insécurité, l'immigration, ça par contre, on va les entendre, ne vous inquiétez pas.
C'est sûr. Merci beaucoup, prof Patrick, à très bientôt.
Salut les auditeurs.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Tiens, le prof Patrick a rapidement évoqué l'urgence climatique, l'occasion d'écouter le dernier titre de La Femme, ça s'appelle Trop de peine.
Thank you.
La femme sur Calade avec trop de peine. Tiens, il nous reste quelques minutes avant de retrouver Peach. Je vous propose une nouveauté. C'est Juliette Armanet qui fait son grand retour avec un joli titre. Ça s'appelle Le dernier jour du disco.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin. Le soleil. S'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. À rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo. Et te dire c'est la fin.
Terminé avec un titre un peu triste, le dernier jour du disco, ce serait terrible.
Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Allez, notre disquaire, on le retrouve tout de suite. Voici Peach avec nous, bonjour.
Classique, comment vas-tu Mathieu?
Ça va bien et toi?
Bah écoute, je peux pas mieux péter la forme en ce double anniversaire avec la 17e année de mon entreprise.
Ouais.
Et mes 38 ans.
Et mes joyeux anniversaires, j'étais même pas au courant, toutes mes excuses.
Bah non, on arrive à être discret, tu sais, c'est pas toujours...
Très bien.
Donc voilà, nickel. Très
double
content.
Anniversaire.
Beau cadeau. Mon téléphone est perturbé et ça fait plaisir.
Bon, et c'est l'anniversaire aussi donc, de l'Underground Store. Ouais. 17 ans pour le magasin.
Voilà, 16 ans révolus et je rentre dans la 17e année. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru?
Très bien. Et alors, pour cet anniversaire, quel morceau tu as choisi? Est-ce que c'est en lien?
Un de mes artistes préférés, qui est né le 2 avril 1939 à Washington, qui part brutalement, on n'expliquera pas les causes de son décès, parce qu'il y a des enfants qui écoutent, à Los Angeles, le 1er avril 1984. Je parle de Marvin Gaye.
Ouais.
Et j'ai choisi une réédition. La réédition d'une represse japonaise de l'album What's Going On, qu'est-ce qui se passe, et voilà, en gros ça sortait en 71 et là en 2021 les Japonais ont réédité une édition qu'ils avaient sortie en 2017 qui était très intéressante, qu'ils avaient récupéré a posteriori les originaux, les enregistrements de Détroit.
Ouais.
Le mix de Détroit, qui était un master intéressant. Et donc, du coup, ils l'ont retravaillé au Japon. Et là, le 4 août 2021, est sorti cette represse d'un album qui est tellement classique, qui comptabilise pas moins de 51 artistes,
ouais.
dont George Benson, qui est au ténor sax, t'as Eddie Brown au bongo, c'est au congas, à la guitare, t'as Robert White, et tellement d'autres. T'as une super photo mythique hivernale de Jim Hending, qui est un gars de la Motown, un des plus gros photographes de la Motown. C'est vraiment une pochette magnifique, avec ce visage de Marvin Gaye, qui est toujours dans l'expectative, on sait pas, tu vois, Marvin Gaye, c'est vraiment un profil. Voilà. Et, où est-ce que ça a été pressé? J'ai vraiment fait des recherches sur cette retraite. C'est super bien, c'est que les Japonais, ouais. Eh ben, ils sortent un disque, mais ils le commandent à l'usine GZ Media en République tchèque. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, tu vois. Genre, les Japonais s'intéressent au meilleur rapport qualité-prix, le, tu sais, la rapidité. Ouais. Et du coup, au final, ils commandent en Europe, hein, les Japonais.
Voilà. Malin.
Ils mettent leur petit hobby, leur petit strip bien joli qu'ils vendent 50-100 euros de plus, il est conservé, la petite fameuse étiquette, tu sais, ouais. Tout écrit en japonais qui est à la mode. Alors ouais, à mon avis, ils donnent de l'argent aux imprimeurs papier japonais, mais n'empêche, commande en Europe.
Ça reste un produit européen.
Dans la campagne tchèque. Enfin,
bon. Très bien. Bon, on va l'écouter, Pilch, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Et ben, encore un très joyeux anniversaire à
merci,
toi et à l'Underground Store. Marvin Gaye, What's Going On, c'est magnifique pour se quitter. À très bientôt, Pilch.
À bientôt. Ciao, ciao.
Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love in here today. Picket lines, sides. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? They judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, pick it light and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on.